prochain.
Est-ce que je peux faire quand même une annonce? Mercredi, je devrais participer à l'émission L'Entonnoir qui a lieu de 9h30 à 10h30 sur Radio Libertaire, donc tous les mercredis. Et ben ça va être encore la surprise parce que je crois Denis a préparé une série d'articles qu'on commentera. L'Entonnoir, une émission de résistance à la psychiatrie. Et je pense qu'on passera encore des musiques de Courge. Vaut mieux prévenir les gens qui n'aiment pas ça.
Voilà, en attendant, ça va continuer sur Radio Libertaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'un point de vue musical en guise de conclusion? Alors, voilà, c'est bon, y a ce qu'il faut, voilà, qui est prêt à être écouté. Peut-être à dimanche prochain. En tout cas, ça continue sur Radio Libertaire. La prochaine émission, c'est 14h30, c'est Onde de choc. En attendant, un petit programme. Et puis donc, Courge tout de suite, en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur le site anarchiste.info. Streaming, podcast, articles, rendez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir.
Bonsoir, 89.4 Radio Libertaire, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai une crève pas possible, mais on espère que ça va bien se passer. Alors, l'émission de ce soir est consacrée à la Technopolis, avec la quadrature du net. Vidéosurveillance algorithmique, prise de contrôle à distance par la police des appareils électroniques, fichage massif de la population, suspicion de terrorisme à l'égard de ceux qui essayent de protéger leurs données, le filet de la Technopolis se resserre inexorablement sur nos vies. Avec Nono de la Quadrature du Net, association qui lutte depuis des années pour la défense des droits et libertés fondamentales dans l'environnement numérique, on va faire un point sur la situation et voir comment on peut y résister. Voilà. Alors, Nono, je voudrais déjà juste savoir où en est la plainte collective qui a été déposée en 2022, si je ne m'abuse, contre la Technopolis, qui a un peu plus de 10 000 plaignants. Ça en est où, cette histoire ?
Tout à fait. Du coup, bonsoir à tout le monde, oui. Déjà.
Bonsoir.
Merci de m'avoir invité, évidemment. Du coup, la plainte... donc oui, en effet, on était 15 000 et quelques à la signer. Et du coup, maintenant, si j'ose dire, elle est perdue dans les limbes de l'administration. Pas de notre ressort, pour le coup. C'est la CNIL à qui on a déposé le dossier, qui maintenant est en charge de regarder la plainte. On a eu quelques nouvelles. On nous a déjà posé la question assez récemment, de où ça en était, et malheureusement je dois vous donner la même réponse qu'on a donnée, c'est que pas très loin. On n'a pas eu beaucoup de retours sur cette plainte en question. Donc pour rappel, c'était sur plainte.technopolis.fr. on avait déposé une plainte où on attaquait la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, et donc du coup l'idée c'était de montrer que voilà, il y avait un débat autour de cette question et que c'était pas juste une nouvelle technologie qu'on allait se contenter d'accepter, quoi.
D'accord, donc là c'est on attend.
Voilà, c'est ça. Pour le moment, le dossier est en train d'être instruit et oui. Nous, pour le coup, on n'a pas beaucoup de retours. Il y a une certaine opacité qu'on dénonce depuis très longtemps autour de la CNIL, autour de toutes les procédures de droit numérique, mais de plus général. Hein. Mais donc voilà, malheureusement, on n'a pas plus d'informations que ça.
Oui, oui. Alors, dans les papiers de la Quadrature du Net, hein, qui sont très très bien faits hein, depuis des années, hein, vous existez depuis plus de 10 ans, hein, depuis même
tout à fait, ça
fait 15
ans.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Oui, oui. Il y a beaucoup d'articles sur ce qu'on appelle des safe cities. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples alors de ce qui se passe aujourd'hui, de politiques de surveillance numérique déjà en place dans ce qu'on appelle les safe cities?
Ouais. Alors, du coup, c'est marrant parce que je vais pouvoir vous donner des nouvelles d'un autre dossier sur lequel on a travaillé. C'est le cas d'Orléans et de ses capteurs sonores. Alors, pour la petite histoire, l'idée, c'était qu'à Orléans, donc, il y a des caméras de vidéosurveillance qui sont installées. Et la mairie d'Orléans a décidé qu'elle allait installer, en plus de ça, des micros en dessous des caméras pour pouvoir augmenter les capacités de ces caméras, etc. Donc, on a déposé un recours devant la CNIL qui, récemment, a jugé que c'était donc un dispositif illégal. Et dans toute cette affaire, la ville d'Orléans s'est défendue en disant que non, c'était pas des micros, c'était des capteurs de vibrations sonores. Vous voyez la différence. Et en fait, le problème, c'est que dans tout ça, c'est un exemple un peu rigolo, mais dans l'exemple, enfin, c'est vraiment l'opacité totale autour des safe cities. On nous dit qu'on va nous protéger avec plus de technologie, une meilleure technique, plus d'informations, etc., etc. Mais en fait, à chaque fois, on nous dit la moitié des choses. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment la capacité de juger, de savoir si, en effet, on va être protégé. Est-ce qu'on a besoin d'être protégé? Est-ce que c'est la seule manière? Est-ce que c'est nécessaire aussi? Et plus dans le sens juridique. Et la nécessité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver aux fins qu'on essaye d'obtenir. Et là, en l'occurrence, on a jugé qu'en effet, il y avait d'autres manières de faire et que ce n'était pas forcément nécessaire.
Ouais. Donc, pour le cas d'Orléans, vous avez gagné?
Tout à fait.
Voilà. Mais il y a pas mal d'autres cas où vous n'avez pas gagné.
Malheureusement, ouais.
Je crois qu'il y a Marseille, hein. Il me semble, il y a une procédure.
Tout à fait. Alors Marseille, c'est un peu spécial dans le sens où il y a eu un changement d'administration, enfin de mairie entre le début de projet de vidéosurveillance algorithmique à Marseille et la mandature actuelle. qui est de gauche d'ailleurs, enfin en tout cas avec de gauche quoi, comme on l'entend. Et donc du coup ils ont dit oui, ben en fait non, c'est pas nous qui avons fait les contrats, on doit garder ces contrats, on doit continuer à les exécuter, même si bah par exemple, enfin dans la composition actuelle de la ville de Marseille, de la mairie à Marseille, il y a par exemple le Parti Pirate, qui traditionnellement est un parti politique avec lequel on se retrouve sur certaines positions. Mais du coup, c'est pas une perte. Enfin, on n'a pas perdu dans le sens définitif. Mais en effet, ouais, c'est un combat qui est encore compliqué, quoi.
Oui. Et il y a de plus en plus de villes qui font même beaucoup de communication, sur tous les aspects de la sécurité, sur les dispositifs qu'ils mettent en place, en mettant toujours l'accent sur le fait que ces technologies vont protéger les gens. Mmh. Là, on a vu le glissement sémantique, d'ailleurs, entre surveillance et protection. Ouais. On ne parle plus de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection.
C'est une manière de faire du marketing.
Mais tout à fait. Ouais.
Mais la question, en fait, c'est marrant, parce que du coup, on surveille des individus, on surveille des gens, on protège des biens, on protège aussi des individus. Mais le fait d'utiliser le mot protection, ça renvoie en fait à ces deux manières de protéger. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, s'est illustré dans une très belle remarque là-dessus, qu'il pensait que c'était aussi important de protéger les biens que les gens. Et en fait, dans la plupart des cas, face à la vidéosurveillance, on voit que ça sert surtout à protéger les biens, parce que quand on a besoin de la vidéosurveillance, des fois ça marche pas. Juste les caméras sont pas allumées. Quand c'est une affaire qui implique la police, on perd les bandes, les sauvegardes n'ont pas fonctionné. Enfin, en fait, dans tout ça, le problème, c'est que cette technologie, elle est pas aux mains des personnes qui sont censées être protégées. Elle est aux mains des personnes qui sont, en l'occurrence, la police, le gouvernement, les mairies. Et enfin, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une technologie a vraiment un but émancipatoire? C'est quand c'est une technologie qui est aux mains de tous et de toutes. Et là, en l'occurrence, la vidéosurveillance, elle est pas aux mains de tous et de toutes.
Alors, je sais pas si ça fait partie de vos missions, mais il y a aussi, là je viens juste de penser à ça, on voit énormément de publicité sur des systèmes de vidéosurveillance privés. Je sais plus comment ça, il y a une marque très connue là, j'ai oublié le nom de cette marque.
Vous pensez à Ring,
oui, je sais pas quoi, voilà, qui vendent de la vidéosurveillance pour protéger les pavillons, machin. Y a même maintenant, je crois, la Poste qui vend un système de vidéosurveillance. Il y a même Orange, je crois, enfin, des marques de téléphone, enfin bon. Ça, voilà, c'est un secteur industriel apparemment qui est
en pleine expansion
vraiment très importante.
Ouais, bah la France a quand même un bon pédigré là-dessus. Y a un salon qui se tient à Paris et au Qatar qui s'appelle Milipol, qui est donc une exposition de militaires et de police, hein, c'est dans le nom, où y a énormément d'entreprises qui vendent de la vidéosurveillance, qui vendent de la vidéosurveillance algorithmique aussi, dans l'idée, voilà, d'exporter des armes, en fait. Là, pour le coup, quand on regarde ces technologies, notamment aujourd'hui dans le contexte, par exemple, la guerre entre la Palestine et Israël, on voit qu'il y avait une utilisation très forte de tous ces capteurs, de toute cette vidéosurveillance, de toute cette technologie en fait de surveillance, ce qui n'a rien empêché. Oui. Si à l'échelle d'un État ça fonctionne pas très bien ou ça fonctionne pas trop, on se demande à l'échelle individuelle, privée, quelle est réellement l'efficacité de cette technologie. Oui. La Cour des comptes avait déclaré dans un de ses rapports que pour, je ne sais plus si c'était la gendarmerie ou la police, mais c'était de l'ordre de 3% des enquêtes qui faisaient utilisation de cette technologie de vidéosurveillance. Voilà, 3%, vu les milliers et les milliers d'euros qui sont investis, on se demande vraiment.
Donc très très peu.
Voilà, oui. Quelle efficacité est-ce que ça a réellement par rapport à payer des gens pour faire le travail qui aurait dû être fait, quoi.
Oui. Et cependant, là, on venait de parler de l'horreur qui se passe en Israël, et on voit effectivement l'échec absolu de la confiance en l'hypertechnologie. Aussi récemment, il y a eu une histoire sur la vente par la France à l'Arabie Saoudite, après le meurtre de Khashoggi, du journaliste, aussi de systèmes de surveillance de la population extrêmement sophistiqués. Enfin, voit que c'est un énorme secteur industriel qui fonctionne comme lobby. On verra ça.
L'entreprise en question s'appelle Amesis, donc un fleuron de l'industrie française de la mort, qui aujourd'hui, enfin, il y a eu un procès. Vous pouvez aller regarder sur le site reflet.info. Il y a notamment des projets en fait de poser des bombes en fait à l'encontre des journalistes qui enquêtent sur ce sujet. Vraiment, en plus, ça fait super longtemps que Reflet fait un travail absolument incroyable sur tout ce qui est de surveiller les surveillants, quoi. Mais ouais, c'est un peu tendu ce qui se passe à ce niveau-là, ouais.
Ah oui. Alors là, on reste dans le sujet, hein, mais j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe actuellement, le procès qui se tient actuellement au tribunal de Paris, porte de Clichy, le procès dit des inculpés du 8 décembre. Et on sait qu'ils sont donc inculpés de terrorisme ou d'association de malfaiteurs en vue d'entreprises terroristes ou voilà. L'un des arguments de l'accusation pour démontrer que ces gens-là avaient des intentions terroristes était leur utilisation de cryptage, de messagerie cryptée. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire ? Enfin, si le fait de chercher à échapper à la surveillance prouve qu'on est coupable de terrorisme, ça devient un peu absurde.
Ouais. La quadrature est impliquée aux côtés des accusés sur ce point bien précis du dossier, mais plus généralement. Tout l'enjeu de ce dossier, c'est de faire de la protection de la vie privée un problème, en fait. Hein, de faire au moins une circonstance aggravante. Ne serait-ce que plus généralement, en fait, ça fait longtemps que la police, le gouvernement essaye de restreindre la possibilité pour les personnes de se protéger, d'avoir une vie privée. Donc voilà, c'est super compliqué. D'autant que de ce qu'on a vu, le procès est en cours, mais le dossier est pas hyper bien fourni. Il est un peu vide. Enfin, vous y êtes allé, vous m'avez dit. Donc, si à chaque fois qu'on accuse quelqu'un et qu'on a rien à lui reprocher, on lui dit oui, mais en fait, vous voyez les preuves, on peut pas les voir, on peut pas les lire, mais elles sont là. Sont là dans l'ombre, dans les campagnes. Eh ben, c'est bon, on peut vous condamner. En fait, c'est super grave. C'est vraiment ouais.
En fait, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une problématique de délit d'opinion qui est en train de se mettre en place?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de délit d'opinion, parce que pour le coup, l'opinion, là, il n'est pas formé, il n'est pas public. C'est plutôt vraiment le droit à la vie privée, le droit à la conscience privée, en fait, à la sûreté des communications. Il y a un terme pour ça qui m'échappe là en ce moment, mais... L'idée, c'est juste de pouvoir s'exprimer librement, en fait, et en privé, notamment. Et, on a vu après, notamment Snowden et les grands scandales qu'il y a eu sur la surveillance de masse de la part des États, que le chiffrement, c'était un peu vraiment le dernier bastion d'expression libre. Les États cherchent à l'attaquer pour le réduire à néant, et c'est très compliqué. Si on se retrouve de plus en plus dans une société de contrôle, que ça soit à travers par exemple à la CAF, il y a de plus en plus d'algorithmes qui sont mis en place pour contrôler les gens. Donc voilà, le simple fait de pouvoir s'exprimer librement, c'est quelque chose qui nous reste, c'est quelque chose qu'on doit défendre à tout prix, et c'est quelque chose qui est attaqué durant ce procès.
Et qui est attaqué dans ce procès d'une manière absolument hallucinante. C'est-à-dire... Et dans un des articles de La Quadrature, vous citez même d'ailleurs l'incroyable incompétence des enquêteurs de la DGSI qui reprochaient, vous allez me dire si je dis pas de bêtises, aux inculpés d'utiliser Signal, qui est une messagerie cryptée, hein, alors que vous dites, je crois que on a recommandé aux membres de la Commission européenne d'utiliser Signal. Pour des raisons de sécurité. Donc on se pince, quoi.
Ouais, et puis l'administration aujourd'hui en France utilise aussi des messageries chiffrées. La base de la confidentialité des communications, elle est nécessaire pour tout le monde, en fait, pas que pour de dangereux soi-disant terroristes, mais l'État l'utilise tout le temps. La question, en fait, c'est à chaque fois d'avoir une technologie qui soit au service du gouvernement, des puissants, voilà, et de l'enlever aux mains de ceux qui pourraient vouloir contester le pouvoir, en fait.
Non, on est bien dans une logique politique, en fait.
Oui, tout à fait. Politique et policière. Oui.
Oui. mais qui est, enfin, qui prend des proportions absolument terrifiantes. Mmh. Est-ce que en France, en tout cas par rapport, on va dire, aux pays européens, est-ce que la situation française est particulièrement critique au regard de par exemple, de ce procès sur les gens du 8 décembre, ou est-ce que c'est une situation qui est comparable à celle des pays européens? Est-ce que la France est dans un état vraiment grave de d'atteinte aux libertés?
Ça dépend de où on regarde, évidemment, ouais. Mais ouais, ce procès a quand même une bonne partie de l'Europe les yeux rivés sur la France, quoi. Ouais. Ça, c'est assez angoissant. On était à Bruxelles avec la Quadrature il y a pas si longtemps que ça, justement. On a parlé du 8 décembre parce que dans un dossier plus large qui s'appelle Chat Control, on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais les camarades européens nous disaient. Ah ouais, enfin c'est compliqué ce qui se passe chez vous. Ça peut faire un précédent législatif qui est extrêmement grave et extrêmement compliqué à changer une fois qu'il est établi, quoi. Oui, c'est un gros problème. L'histoire de la France est différente de celle des autres pays européens. Il y a des pays, par exemple en Allemagne, qui ont connu jusqu'à récemment une surveillance extrêmement forte de la part de l'État avec la Stasi, etc. C'est aujourd'hui un pays qui est opposé au niveau européen à la législation à Chat Control dont je parle. Et les Allemands, quand ils nous regardent, ils se disent, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi.
Oui. Mais est-ce qu'il y a une législation européenne qui pourrait empêcher les dérives françaises, enfin...
La France a fait un Frexit sécuritaire depuis bien longtemps, en fait. C'est assez rigolo quand on regarde le rapport de la France au droit européen, notamment en matière de surveillance et de matière de sécurité. La France est en... Je sais pas c'est quoi les termes juridiques exacts, mais en gros, elle se positionne en illégalité par rapport au droit européen, notamment par exemple sur la conservation des données. À l'échelle européenne, c'est 30 jours de conservation des données, et en France, c'est un an. Donc nous, par exemple, à la Quadrature du Net, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, en fait, de dire que bah voilà, la France est bien plus sécuritaire que ce que nous l'autorise, et non pas l'impose, l'autorise le droit européen, quoi.
Mais comment ça se fait que ça, qu'il se passe rien, enfin, que ça passe, ça
paraît innocent.
Ouais.
Vous voulez qu'on parle plus fondamentalement de la politique européenne?
Non, mais ouais. Bon, c'est...
Mais si, ça peut être intéressant de dire un mot sur cette question.
Bah, en fait, le truc, c'est que la France a quand même un pouvoir assez fort dans l'Union européenne. C'est un des gros pays fondateurs, quoi, de l'Union européenne. Et elle a des alliés au niveau européen, par exemple l'Espagne, où il y a des lois qui sont assez graves aussi dans ce sens-là, notamment dans le dossier de Chat Control, j'y reviens encore, mais c'est un bon exemple pour comparer. L'Espagne était ou est toujours sur une position d'interdire le chiffrement, tout court en fait. Et donc du coup, t'as un peu cette position ambivalente de la France, un peu au milieu de l'Europe, mais aussi au milieu de cette discussion. On voit l'Italie par exemple aussi qui est sur une position assez similaire à celle de l'Espagne. Donc c'est un peu, elle joue un peu de ce rapport de force entre différentes puissances politiques européennes pour tirer son épingle du jeu, quoi. Et il y a aussi, enfin. Il y a aussi quand même le contexte politique français qui est souvent voilà mis en exergue. Les gilets jaunes, c'est les révolutionnaires français, machin, etc., etc. Et donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir un pays qui sort un peu du droit de l'Union européenne pour essayer des choses, voir un peu où sont les limites. Nous, on pense que c'est une technique qui court à sa perte et que ça va être extrêmement compliqué de revenir en arrière. Mais voilà, c'est un peu le jeu de la politique européenne aujourd'hui.
Bah, tu peux nous parler de Chat Control que tu viens de citer plusieurs fois, nous dire ce que c'est.
Tout à fait. Donc du coup, le problème avec ces messageries chiffrées, du coup, c'est que les clés de chiffrement sont sur les appareils qui communiquent entre eux. Donc si j'ai un téléphone et quelqu'un, toi t'as un autre téléphone, il y a personne qui pourra lire les messages en transit. Donc voilà. Mais ça embête bien la police, le gouvernement, évidemment. Et donc, du coup, ils ont trouvé la parade. Ils ont dit, eh ben, écoutez, on va du coup scanner vos messages, mais directement sur votre téléphone. C'est-à-dire, on ne va pas essayer d'intercepter les messages. On va mettre un mouchard, un logiciel espion, directement sur votre téléphone pour pouvoir savoir tout ce que vous dites, tout ce qui se passe. Et ce, à grand renfort d'intelligence artificielle, c'est pour protéger les enfants, vous comprenez, c'est pour détecter le terrorisme, etc. Et voilà.
Mais concrètement, ça veut dire que quand les gens vont acheter un téléphone, il y aura ce système dedans.
Tout à fait, ouais. Richard Stallman disait que c'était le rêve de Staline, mais Staline n'avait pas la technologie. Aujourd'hui, on l'a. Et la question de l'efficacité se pose très peu. En réalité, enfin, on a souvent vu dans la législation numérique le coup de on va protéger les enfants, c'est pour lutter contre la pédopornographie, ou c'est pour lutter contre le terrorisme. Enfin, t'as toujours un peu de grandes excuses comme ça, voilà. Du coup, on était avec EDRI, qui est European Digital Rights, qui est une organisation européenne qui rassemble tout un tas d'organisations, un peu comme la Quadrature, qui se bat très fort sur ce dossier. Et il y avait notamment la présidente de Signal et la haute commissaire aux droits humains et une chercheuse en informatique extrêmement reconnue, qui ont tour à tour expliqué que en fait c'était une fausse solution, que c'était techniquement quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, politiquement quelque chose qui était extrêmement dangereux, et voilà, enfin c'est jouer avec le feu concrètement.
Et quelles sont les réactions alors des pouvoirs face à ces nombreuses critiques?
Du coup, la haut-commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe a dit que c'était pas une très bonne idée. Enfin, elle a montré son opposition. Il y a eu des pétitions et un grand travail de mobilisation de la part de tout un tas d'organisations. Il y a une campagne qui va bientôt débuter sur. Enfin, en gros, on pourra appeler les députés européens pour les faire changer d'avis, et notamment en France, on a un grand rôle, comme je disais tout à l'heure, à jouer, parce qu'on est un peu dans cette position charnière entre plusieurs pays européens. Donc c'est vraiment une mobilisation qui est en train de commencer et qui prend de l'ampleur en ce moment.
C'est une monstruosité, quoi. Et je vais juste revenir brièvement sur le procès là, des inculpés du 8 décembre. On sait que pendant l'interrogatoire qu'ils ont subi à la DGSI, on leur a posé les questions suivantes. Êtes-vous anti-GAFAM? Également, avez-vous des réserves vis-à-vis des technologies de l'information? C'est-à-dire qu'avoir une attitude critique vis-à-vis de ces entreprises tentaculaires est devenu suspect aussi. Enfin, c'est effarant.
C'est quelque chose que j'ai lu il y a presque 10 ans maintenant dans un bouquin qui s'appelle À nos amis. Sur le coup, ça m'avait fait tiquer parce que vraiment il y avait ce passage qui disait s'extraire de cette société de surveillance va devenir suspect par défaut dans quelques années. On y est aujourd'hui. Je vous encourage à lire le bouquin, ne serait-ce que par curiosité, mais pour nos auditeurs et nos auditrices aussi. C'est quelque chose qui est très très dur à voir en fait, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à rendre possible, que ça soit dans nos cercles d'amis, de refuser certaines technologies, d'encourager les personnes à laisser tomber leur smartphone, ou en tout cas à faire de l'ombre en fait, pas faire de l'ombre dans le sens cacher les gens, mais en fait se protéger du soleil, de cet œil qui est tout puissant et qui nous regarde à tout instant. Faire de l'ombre, c'est des endroits dans lesquels on peut discuter librement. Je pense que c'est très important en fait de continuer à pouvoir avoir ces espaces de liberté.
Qui effectivement se restreignent d'une manière inexorable. Moi, par exemple, je n'ai pas de smartphone, je ne veux pas en avoir. Et je me demande, le jour où je ne pourrais pas être suspectée aussi parce que je n'ai pas de smartphone. Ce qui voudra dire que je tente d'échapper.
Je pense que ça serait intéressant d'avoir peut-être une loi, si, pour la valeur que ça a. Enfin, je sais que je suis sur une radio anarchiste, donc voilà quoi. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir notamment ce droit en fait à la déconnexion. Il y a un peu un début de droit à la déconnexion comme ça, notamment vis-à-vis des employeurs, mais plus généralement, on voit par exemple que pour accéder à son compte personnel de formation, il faut maintenant posséder un smartphone et se faire une identité numérique La Poste. Il y a de plus en plus d'endroits où on va vous encourager très fortement, si ce n'est dans d'autres pays d'Europe, refuser l'argent liquide et vous dire prenez votre carte bleue. Il y a des systèmes de reconnaissance faciale pour signer ses colis, pour signer tout un tas de papiers. En fait, ça, c'est des choses qui peuvent avoir un certain mérite et la technologie peut fonctionner. Mais le problème, c'est que si on empêche toutes les alternatives derrière, le jour où ces technologies ne sont plus fonctionnelles ou permettent des abus de pouvoir, on n'aura rien vers quoi se tourner comme alternative.
Oui. Frédéric, on va faire la pause de notre émission. Alors vous allez voir, c'est un peu particulier ce soir.
Un peu de philosophie.
Voilà, c'est pas une musique, c'est...
Eh bien, oui, on vous propose d'écouter ce soir un texte de Gilles Deleuze au sujet donc de la société de contrôle. Ça dure 5 minutes, habituellement c'est plus court, mais on vous invite à écouter.
L'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, c'est vrai, enfin je dis des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions, vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires, ben, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, qu'il faudrait appeler, c'est Burroughs qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait le nom de, un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ben ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement, ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez, et pas tant, ce serait des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là vous enfermez pas les gens, Mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute. Mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça avant ?
89.4, nous sommes sur Radio Libertaire, à l'émission Le Grand Soir du Mardi. Nous invitons Momo ce soir pour nous parler, Nono, pardon, pour nous présenter la quadrature du cercle. Nous venons d'entendre Gilles Deleuze qui fait référence ici à Foucault. Foucault qui annonce dans Surveiller et punir la fin d'une société disciplinaire caractérisé par l'enfermement et le passage à une société de contrôle généralisé. Un mot sur la société de contrôle. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une société de contrôle? Comment la définir? Eh bien, c'est un monde où la domination capitaliste devient totalement diffuse au sein des relations sociales, du fait qu'elle est d'abord intégrée par les personnes qui sont, elles-mêmes, contrôlées, assujetties à une idéologie dominante et omniprésente, une forme de pensée unique, hégémonique, à laquelle personne n'est supposé échapper sans devenir suspect. Mac, tu...
ben, le texte de Deleuze, qui date d'il y a 50 ans, est totalement visionnaire. C'est vraiment c'est assez extraordinaire à entendre et en même temps très très flippant. On va revenir à notre sujet. On va évidemment parler de ce qui se passe pour les Jeux Olympiques. Donc la loi sur la VSA, vidéosurveillance algorithmique, a été votée. Dans quelles conditions ça a été voté? Quel rôle ont joué les lobbies industriels et politiques dans le vote de cette loi? Est-ce que la CNIL a dit quelque chose?
Enfin, voilà. La CNIL a dit qu'il fallait faire attention à ce que les limites soient bien posées, qu'il y ait une discussion, enfin comme d'hab. Hein. La CNIL n'a pas dit grand-chose d'intéressant. Le Conseil constitutionnel a validé la loi. La technologie est là, les industriels s'en frottent les mains, tout va bien dans le meilleur des mondes, ne vous inquiétez pas, les JO se passeront en toute sécurité. Plus sérieusement, on parlait, on a entendu du coup parler de milieu d'enfermement et les JO, en fait, c'est il y a beaucoup le terme expérimentation qui revient dans les JO, notamment au sujet de la VSA. Et en fait, c'est très intéressant d'utiliser ce mot expérimentation parce que on n'expérimente pas la construction d'une infrastructure de contrôle. On construit une infrastructure de contrôle, ensuite on l'utilise et peut-être on la démantèle. Mais le peut-être, évidemment, est très rare. Dans les dernières années, on n'a pas vu de peut-être devenir un... En fait, non. C'est la plupart du temps, hein, en fait, si. Donc, voilà, les JO, c'est plus une... Comment on pourrait dire? Une expérimentation d'opinion publique, d'acceptabilité. Enfin, c'est du management, du contrôle, du nudge, vous pouvez prendre les mots que vous voulez. Mais concrètement, oui, c'est l'idée de construire quelque chose qui n'est pas un milieu d'enfermement, justement, mais un endroit où à tout moment t'es contrôlé, notamment par les technologies de vidéosurveillance et de vidéosurveillance algorithmique.
Et il semblerait même qu'il y ait pas mal d'organisations européennes qui ont critiqué ce qui se passe en France. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la France est apparemment dans une certaine illégalité par rapport aux institutions européennes, mais il se passe rien, quoi.
Là, du coup, la France, c'est le premier pays d'Europe, du coup, à légaliser la surveillance biométrique. Un petit mot, peut-être, sur cette surveillance biométrique. Souvent, quand on parle de biométrique, on a l'idée d'une empreinte digitale ou d'un scan de la rétine. Mais, au sens du droit européen, le Règlement Général pour la Protection des Données, le fameux RGPD, en fait, une donnée biométrique, c'est toute donnée qui a un attrait au corps. C'est-à-dire qu'une image de vous, c'est une donnée biométrique. Une photo de vous, c'est une donnée biométrique. Et normalement, on est censé pouvoir donner notre consentement sur la question de la donnée biométrique, notamment dans le cadre privé. C'est un peu différent quand c'est la police qui exploite directement ces informations. Mais par exemple, si vous rentrez dans un stade qui est géré par une société privée, normalement, on a la possibilité de refuser le traitement de nos informations biométriques et notamment de la reconnaissance faciale en premier lieu. Je pense pas que ça va être le cas dans les stades des JO. Moi, j'avoue que je m'y rendrai pas. Donc, vous pourrez nous confirmer.
On n'ira pas non plus.
Bon, bah, peut-être que quelqu'un un jour nous confirmera ça. Mais voilà. Enfin, c'est assez compliqué. Un petit mot peut-être pour les travailleurs des JO, les personnes qui construisent les stades, qui se sont mis en grève aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en grève aujourd'hui en lutte contre les JO. On voit qu'il y a...
Porte de la Chapelle, je crois.
C'est ouais, ça. Tout à fait. Il y avait un rassemblement aujourd'hui, Porte de la Chapelle. C'est la CNT Solidarité Ouvrière, je crois, qui porte en partie le mouvement avec la CGT et d'autres syndicats. Mais du coup, oui, on a beaucoup de différentes oppositions aux JO. Nous, on travaille sur le volet numérique. Il y a Saccage 2024 aussi, qui est une association qui fait un travail formidable sur les JO, l'impact écologique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à redire des JO.
Oui. Mais on a l'impression que la France est de plus en plus en train de s'orienter vers le modèle chinois.
Ouais. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec cette comparaison modèle chinois, modèle russe. En fait, c'est des sociétés capitalistes qui utilisent le contrôle, que ça soit un contrôle avec des caractéristiques chinoises ou avec des caractéristiques franchouillardes. En fait, pour moi, ça m'intéresse peu. C'est pas vraiment le.
Oui, de qualifier.
Voilà, c'est pas vraiment le fond de la question, en fait, que ça soit des sociétés plus ou moins autoritaires à certains niveaux. Je trouve qu'on perd beaucoup, en fait, à se comparer à pire, d'une part, et ça nous rassure un peu sur notre situation, alors que on a rien à envier quelque part, avec des grands guillemets, à la situation en Chine. La France en ce moment est en train de débattre le projet de loi dit espace numérique, qui notamment a pour ambition de rendre obligatoire l'identification pour consulter les sites pornographiques pour gérer notre âge.
Tout un débat là-dessus.
Voilà, on a publié une tribune dans Têtu avec attendez, je vais vous donner les noms avec différentes organisations du coup qui luttent pour les droits. Alors je vais vous donner ça parce que c'est des organisations absolument essentielles. Donc notamment ACT UP Paris.
Ah oui.
Et d'autres organisations dont j'ai plus le nom, mais du coup on a notre article sur le site. Mais voilà, enfin le grand rêve en fait de tout politicien face à Internet, ça a toujours été d'obliger l'identification, de ne pas permettre une parole anonyme, parce qu'une parole anonyme c'est une parole qui est libre
et donc dangereuse,
tout à fait. Mais voilà, ce projet de loi espace numérique, concrètement, oui, nous approche de la situation qu'on peut avoir en Chine. Encore que, il y a beaucoup de journalistes et de méconnaissances en fait sur la situation chinoise. C'est un pays qui est très vaste avec des régimes politiques, enfin des situations politiques différentes en fonction des régions aussi. Donc voilà, je sais pas si vous avez récemment visité une prison ou un centre de rétention administrative. C'est pas les mêmes situations dans ces endroits-là que par exemple dans des lycées, mais il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Je sais pas si on va dire que voilà, les lycéens sont en prison. Enfin, je sais pas si ma comparaison a beaucoup de sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Vos actions sont assez diversifiées. Vous faisiez pas mal de recours juridiques. Et j'ai lu dans les documents que vous produisez que vous cherchez constamment de nouvelles voies pour arriver à sensibiliser les gens, à faire en sorte que les gens soient initiés justement à toutes ces manipulations et à ce contrôle. Et je crois que vous avez aussi évoqué, réfléchi à la question de l'éducation populaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces actions ?
Alors, du coup, je suis une des personnes qui est responsable de l'éducation populaire. En fait, on part du constat que Il y a un peu cette idée comme quoi, la technologie, c'est à la fois quelque chose qui est partout et à la fois quelque chose qui est réservé à un très petit nombre. Comme je le disais en début d'émission, on pense qu'une technologie, en fait, pour qu'elle soit réellement libératrice, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc, on travaille avec d'autres associations. On pense à Framasoft, à l'April, mais encore, vraiment une myriade d'associations. Sur la question de comment est-ce que Internet fonctionne, comment est-ce qu'une technologie peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut se saisir de cette technologie. Il y a des exemples de pays où la technologie, c'est quelque chose qui est... il y a un rapport très différent à la technologie. Je pense par exemple à Cuba, qui a subi un embargo très fort et qui subit toujours un embargo très fort, ou se saisir de la technologie parce que on n'a pas un accès aussi commercial à la technologie. On est obligé de comprendre comment elle fonctionne parce qu'il y a que nous qui puissions les réparer. Et nous, on aimerait tendre en fait vers ce pouvoir populaire face à la technologie, de pouvoir le modifier, se l'approprier, le détourner aussi. On essaye de faire tout ça. Ça passe par intervenir à la radio, ça passe par intervenir dans des lycées, dans des écoles, de faire par exemple des projections, des ciné-débats, enfin tout un tas de moments comme ça où on parle de la technologie, on essaye d'avoir des questions et d'avoir une démarche pédagogique dans cette technologie, mais voilà, de donner... Je vais citer une association très sympathique qui s'appelle La Contre-Voix. Et j'aime bien ce nom de cette association, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, de donner une contre-voix face à la technologie, de montrer que en fait, la technologie n'est pas un mal, mais c'est vraiment quelque chose qui est un outil de pouvoir, un outil de puissance, et on peut se l'approprier.
D'accord. Alors, quels sont les outils, les méthodes qui permettent aux personnes averties, du coup, puisque c'est votre objectif, de s'émanciper de la surveillance et, et de la censure. Vous avez Mémopol, vous avez des différents outils.
Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on développait des outils. Mémopol, c'était un outil qui permettait de contacter les députés pour leur exprimer nos positions à des projets de loi. On a arrêté de développer cet outil parce que aujourd'hui, en fait, c'est du coup des associations européennes qui ont pris le relais et qui sont en train de développer un outil qui va être utilisé dans le cadre de la campagne Chat Control. Et en fait, on s'est rendu compte que on était fort en juridique et que il y avait d'autres associations qui étaient très fortes en développement d'outils, en éducation populaire. J'ai déjà parlé de Framasoft. Ils ont une campagne extrêmement intéressante qui s'appelle Dégooglisons Internet, et dont l'idée est de proposer donc des alternatives à, par exemple, Google Drive. Vous allez avoir des associations qui sont rassemblées au sein d'un collectif qui s'appelle les Chatons. Donc chatons.org avec un S, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire. Vous allez pouvoir retrouver en fait tout un tas d'alternatives, tous les outils que vous pouvez avoir chez Google, chez les GAFAM, vous allez pouvoir les retrouver dans des associations et des collectifs autour de chez vous qui adhèrent à une charte qui garantit l'expression libre, la transparence, l'utilisation du logiciel libre, etc.
En même temps, si vous voulez, quadrature du cercle, quadrature du net, si vous voyez ce que je veux dire, on a le sentiment de se battre contre des moulins à vent, en fait, parce que la pression de l'État, la pression des lobbying est de plus en plus puissante, les outils mis en place sont de plus en plus puissants, et du coup, on a l'impression d'un raz-de-marée, si vous voulez, quand on s'intéresse un peu de près à ces questions. Et du coup, on se demande jusqu'où peut-on aller pour freiner ce mouvement, cette lame de fond, qui n'est pas simplement nationale, mais qui est bien internationale.
Jusqu'où aller, ça dépend de qui on a en face, quels sont nos moyens, quels sont les engagements qu'on a envie d'avoir. Un des principes, ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, de refuser l'utilisation de certaines technologies, d'en explorer d'autres. Il y a cette idée du low-tech, dans l'idée que ce n'est pas forcément mieux si c'est plus complexe, et que peut-être la simplicité des choses, c'est quelque chose qui est peut-être le plus important dans la technologie, en fait, c'est d'arriver à comprendre simplement quelque chose. On a encore aujourd'hui la nécessité de rendre transparent l'administration. On fait ce qu'on appelle des demandes CADA, notamment dans le cadre de la campagne Technopolis, du coup, où on va essayer de publier un maximum d'informations sur les administrations publiques, sur les marchés, sur les contrats, sur tout ce qu'elles font. Parce qu'en fait, une grande partie de la technologie et de la façon dont elle est imposée aujourd'hui, c'est la commande publique, c'est les contrats publics-privés. Donc en fait, ça peut être un angle d'attaque assez intéressant, d'attaquer ces contrats, de les remettre en question, de les exposer, de faire en sorte que on voit, comme dans le quart d'Orléans, ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Donc ça peut être vraiment un axe assez intéressant et assez fort. En fait, il n'y a pas une acceptabilité énorme de la part du public, en fait, de ces technologies de surveillance. Je pense que, voilà, enfin, les mettre au grand jour quelque part, ça peut être intéressant. Après,
en même temps, il y a une injonction, parce que s'ils ne maîtrisent pas les outils, ils sont démunis et du coup, ils sont pénalisés. Il y a un certain nombre d'aides, par exemple, que les gens ne reçoivent pas parce que précisément, ils ne savent pas manipuler les outils, etc. Et d'ailleurs, l'État fait des milliards d'euros d'économies, justement.
Sur le dos des personnes qui ne sont pas dans les guichets.
En particulier le RSA, les personnes qui ont droit et qui n'y ont pas accès. Tout ça est quand même extrêmement inquiétant. Vous pouvez nous parler de Pipphone?
C'était aussi... Du coup, pareil, c'était un outil pour contacter les députés. Pareil, c'est un outil qu'on ne développe plus aujourd'hui, mais du coup, il y a cet outil européen qui s'appelle Dear MEP. Mm-hmm. C'est D-E-A-R-M-E-P. Cher député européen en anglais. Et voilà, on a un peu laissé de côté, on va dire, le développement d'outils à destination du public plus général.
D'accord.
Mais on va apporter, par exemple, notre expertise sur la question de qui contacter dans les députés, quels sont les groupes politiques à cibler en priorité. Mais voilà, enfin, c'est...
Vous laissez tomber un petit peu cette approche-là, en fait. Elle vous paraît... peu productive, en fait.
Non, pas forcément. C'est plutôt que on peut pas tout faire et oui. On est plus fort à plusieurs et il y a des personnes très compétentes et très intéressantes qui font ce qu'on faisait à l'époque. Le paysage a aussi pas mal changé. Il y a pas mal d'associations aujourd'hui qui se sont créées, qui se sont formées et qui prennent le relais, en fait, sur certains combats qu'on menait à l'époque. Et nous, on est très contents de ça. C'est aussi le signe, quelque part, d'une réussite et d'un changement, en fait, politique par rapport à la technologie. Je pense que, voilà, peut-être que si on a des outils intéressants qu'on nous propose si vous nous écoutez et que vous savez coder, n'hésitez pas à nous proposer des outils que vous développez. On pourra les porter, on a les capacités, la technique pour les faire. Mais voilà, on peut aussi vous renvoyer vers d'autres personnes qui peuvent aussi vous soutenir là-dessus, quoi.
Je vais vous poser une question, pour le coup, vraiment sur la question politique. Quels sont, à votre avis, les enjeux politiques et juridiques de notre monde informatisé? Qu'est-ce qu'on cherche à faire en mettant en place ces technologies qui en fait privent l'ensemble des citoyens de plus en plus de leur liberté élémentaire et surtout même de leur liberté dans leur espace privé?
J'avoue que c'est en effet une question de fond, très intéressante. Je meuble un peu histoire de réfléchir, mais je sais pas. Je dirais que en fait la surveillance généralisée comme ça, c'était une réaction à, je pense, Internet, en fait, à les autoroutes de l'information, à l'accès tel qu'on n'en a jamais eu, à la possibilité de s'exprimer et de voir ce que disent les autres. Et en fait, ça a quand même fait ça a fait bouger les lignes très fort dans tout un tas d'endroits, dans tout un tas de rapports sociaux qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que c'est, voilà, c'est une réaction à cette nouvelle liberté, à cette nouvelle possibilité de s'exprimer, de réfléchir différemment. La question de la surveillance généralisée comme ça, je pense que c'est aussi bah voilà, la, la fin de combats politiques du XXe siècle. Au XXIe siècle, on a des nouveaux outils, on a des nouveaux enjeux, on a des nouveaux acteurs, donc bah, on a des nouvelles situations de surveillance. Il y a aussi l'avènement de nouvelles technologies de chiffrement et de protection de la vie privée. Même si aujourd'hui le droit au chiffrement est, est attaqué, il n'a jamais été aussi accessible. Faut bien garder en tête qu'avoir la possibilité d'avoir un texte qui soit indéchiffrable par la police, par l'État et par le gouvernement, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est déjà arrivé en fait dans l'histoire de l'humanité, que moi tout seul, sans moyens spéciaux, je puisse le faire. Et ça, ça change aussi beaucoup le rapport de force qu'on a à l'État, qu'on a à la police. Le fait de pouvoir s'organiser avec, en effet, quelle que soit la force, on est protégé par les maths, en fait, par la logique, par l'informatique.
En même temps, d'où le procès du 8 décembre.
Voilà. Mais ça a le contre-coup qu'on peut aussi avoir un micro dans la poche de chacun. Donc, ouais, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. On a une force politique et technologique qui peut être de notre côté, mais qui a aussi forcément besoin de limites, parce qu'elle peut être utilisée par les personnes en situation de pouvoir, et si on veut que la technologie reste quelque chose qui puisse nous aider dans la vie de tous les jours, il faut qu'elle soit également répartie, il faut qu'elle ait des limites, notamment qu'elle rééquilibre les rapports de pouvoir.
Mais est-ce que quand Internet est arrivé, il y avait vraiment une promesse d'émancipation, d'accès à la connaissance, au monde entier. Enfin, voilà, c'était vraiment une promesse, on va dire, plutôt démocratique.
Ouais.
Et cette promesse a été trahie quand même progressivement, dans une vitesse de plus en plus exponentielle. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel, mais que c'est plutôt devenu quand on voit quand on voit la manière dont les gens l'utilisent. Bon, je ne connais pas la manière dont les gens l'utilisent universellement, mais en tout cas en milieu urbain à Paris, quand on voit 95% des gens absorbés sur leur écran à regarder des conneries sur TikTok, voilà, quand on voit qu'on ne peut plus rien faire, accéder à des droits si on n'a pas l'outil machin, enfin moi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même plus devenu un instrument de servitude
volontaire,
bien sûr, que de d'émancipation.
Je suis d'accord avec certains points, mais je vais quand même essayer de sauver un peu l'optimisme dans la question. On peut regarder, on peut passer notre temps à regarder des vidéos stupides sur des sites, des applications, mais on a aussi la possibilité de se révolter massivement à travers tout le pays face au meurtre de quelqu'un par la police. En quelques heures, on peut être au courant de choses et se mobiliser à une ampleur qu'on n'a jamais eue avant aussi.
J'ai l'impression que ça arrivait avant, quand il y a eu le meurtre des deux gamins en 2005, où il y a eu des émeutes massives. Il n'y avait pas un usage aussi massif.
C'était le début.
D'Internet. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements rapides et massifs avant Internet. On n'a pas attendu.
Oui, tout à fait, mais que je veux dire, c'est que l'ampleur a changé. Quand on compare les révoltes en 2005 et les révoltes qu'on a connues cet été, le nombre de villes et le nombre de lieux d'habitation qui ont été touchés par ce sentiment de révolte, il est beaucoup plus grand. On a aussi un historique qui est plus facile à reconstituer parce qu'on a accès, enfin on a la possibilité de stocker de l'information comme on n'a jamais eu avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information ne prend plus de place, enfin en tout cas pas réellement par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, entre un livre de 1000 pages et plusieurs milliers d'heures de vidéos. En fait, ça fait la même taille pour un rapport à l'information qui est totalement différent. On a la capacité d'interagir et de partager et de repartager aussi des modifications d'informations de manière extrêmement simple. Donc oui, Pour autant, je suis d'accord, on est quand même revenu d'un Internet utopique. Il y a un bouquin très intéressant, d'ailleurs, qui a été écrit par un des membres de l'association qui s'appelle « Contre-histoire d'Internet du 15e siècle à nos jours », qui est écrit donc par Félix Tréguet, et qui part en fait début de l'imprimerie et du rapport ambivalent qu'on a à cette technologie de l'information, qu'elle soit numérique ou papier, et qui explore en fait toute cette histoire. Et qui pose la question, un peu comme vous venez de le faire, de quelle utopie est-ce qu'on a réellement construit, quelles sont les suites aussi qu'on peut avoir à cette utopie. Et ça, pour le coup, la question des suites, en fait, comme tout dans l'histoire, c'est nous qui allons l'écrire. Qu'est-ce qu'on veut, en fait, comme suite à cette histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là. Peut-être pour réfléchir un peu dans l'avenir, on a l'intelligence artificielle qui change beaucoup notre rapport à l'informatique. Il y a aujourd'hui cette incompréhension un peu de qu'est-ce que ça fait vraiment, quelles sont réellement les possibilités. Beaucoup de peur aussi sur la génération de faux contenus, sur la surveillance que ça peut avoir. Mais en fait, c'est une angoisse et c'est une peur qu'on a déjà vue par rapport à d'autres choses, par rapport à d'autres technologies par le passé. Pour autant, les technologies sont toujours là. On a su s'y accommoder, on a su aussi se les approprier, pas forcément très bien, pas forcément toujours comme on aurait pu vouloir au début quand elles sont apparues. Pour autant, je pense que, enfin, tant qu'on a des personnes en fait qui voient l'informatique comme quelque chose qu'elles peuvent modifier et que ces personnes-là ont des buts qui soient altruistes et qu'on puisse avoir un peu d'optimisme et qu'on puisse continuer à se dire. Grâce à cette technologie, je vais pouvoir améliorer la vie des gens. Je pense qu'on a quand même un peu de lumière vers laquelle on peut continuer de se tourner, quoi.
Mm-hmm. Oui, mais c'est vraiment optimiste. Parce que, très franchement, ouais, je suis très pessimiste. Enfin, je pense que.
Je comprends, et c'est aussi de ma position. Je suis informaticien.
Oui, bah oui, puis parce que t'es jeune et machin, bien sûr.
Ah, la jeunesse.
Mais voilà. Mais est-ce que tu as l'impression que tout ce que vous faites, hein, ce qui est encore une fois, comment pouvez-vous mesurer ou savoir l'impact que vous avez dans la réflexion, dans l'usage de ces technologies? Enfin, est-ce que vous pouvez avoir une idée de ça?
On change la manière dont parlent les gens.
Ouais.
On a inventé en fait le mot VSA. Vidéosurveillance algorithmique. Pour le coup, c'est nous qui l'avons utilisé en premier. Et aujourd'hui, c'est la CNIL qui l'utilise pour parler de sa technologie. On a réussi à imposer quand même une manière de voir cette technologie. Ça, c'est un exemple parmi 15 ans de combat. Mais donc oui, on a quand même un impact. On a quand même changé la manière dont l'informatique est perçue en France. Pas forcément autant qu'on aurait pu. Et tout le monde ne connaît pas la quadrature du net. Et loin s'en faut, quoi. Mais on a quand même un impact sur la technologie. On a des arrêtés de la Cour de justice européenne qui portent notre nom. Donc on a quand même une influence sur le réel, si on mm-hmm. veut. Et on va continuer, en fait. On a des victoires. On n'en a pas beaucoup, mais on a des victoires. On a aussi des défaites. Mais on continue de trouver des alliés, en fait, dans ces combats. Et tant qu'on trouvera des alliés, en fait, on a toute raison de continuer, quoi.
Et vous allez peut-être en trouver de plus en plus.
Ouais.
Parce que, vu la situation, je pense qu'il va y avoir quand même de plus en plus de réactions.
On se fait pas que des ennemis dans la panique, quoi.
Oui. Voilà, bah écoute Nono, on te remercie, c'était vraiment passionnant. Et puis la quadrature du net, moi je trouve que c'est une assos qui est très intéressante et avec énormément de compétences, quoi. Est-ce que ce soit technique, juridique, voilà. Donc,
Est-ce que je peux profiter des 15 dernières secondes pour faire un petit appel aux dons? Parce que la quadrature ne tient quasiment que par vos dons.
Ah ben,
donc voilà, n'hésitez pas.
Sans souci, ça sera entendu.
Donc la quadrature du net.org.
LQDN.fr ou laquadrature.net.
Oui,
voilà.
Voilà. Bon, bah, super.
Merci beaucoup.
Merci à Frédéric.
Merci Frédéric.
Et toujours fidèle au poste.
Voilà, merci, et donc on se retrouvera donc dans un mois, vraisemblablement avec une émission sur les accidents du travail, mais ça n'est pas encore certain. Et si c'est pas ça, ça sera autre chose de très intéressant. Merci, bonsoir.
sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis l'esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure, pleure avec mon chagrin. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême, sont effacés. Je sens passer du brouillard sous mes yeux, tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amours, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Mais mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants?
Thank you. désabusé en deuxième page de mon journal. Un bonhomme triste et révolté qui trouvait pas normal. Il avait pas pu faire l'amour avec un môme de 12 ans qui lui avait plu l'autre jour au bord de l'océan. Et toi, tu crois que tu peux changer la vie à la mesure de tes envies? Je suis un peu comme toi, j'en crève de pas pouvoir vivre mes rêves. Mais pense avant de commencer ce que tu peux casser. Tout peut déboucher sur du vide, sur du triste ou sur du sordide. J'ai vu emballer un voleur qui avait loupé un sac à main. Petit matin, pauvre malheur, pauvre femme et menu fretin. Tout ça pour se faire une fleur qui fanerait avant demain. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'aimais mieux mon destin. Et toi, tu crois que tu peux changer la vie à la mesure de tes envies? Je suis un peu comme toi, j'en crève de pas pouvoir vivre mes rêves. Mais pense avant de commencer ce que tu peux casser. Tout peut déboucher pour de bon sur les flics ou sur la prison. J'ai subi quelques beaux parleurs qui refaisaient le monde à l'envi. Le refaisaient en un quart d'heure, le pouvoir au bout du fusil. J'en ai connu qui avaient du cœur et qui m'ont fait changer d'avis. Moi qui ne suis qu'un emmerdeur, profiteur cynique et pourri. Et toi, tu crois que tu peux changer les choses? Tu crois que tu dois risquer la mort? Moi je suis là, je chante encore, je ne risque que la cirrhose. Mais pense avant de commencer ce que tu peux casser. Tout peut déboucher sur du sang, sur du bordel ou du néant. Les moulins, ne vous croyez pas trop malin. Y'a vraiment pas mal de boulot pour faire ce monde un peu plus beau. Faites un peu mieux ce que vous faites, faites un peu plus souvent la fête. Ça peut déboucher sur du temps qui s'écoule entre des printemps.
Radio Libertaire 89.4.
On ne peut pas vivre dans un monde où l'on croit que l'élégance exquise du plumage de la pintade est inutile. Jean Giono. Il a fallu m'isoler pour me domestiquer. Faut pas nous rogner les ailes, on continuera quand même de voler, de voyager. Qu'ils restent à bonne distance, les humains, sinon on retourne en nos pays chauds. La parole doit sortir du cœur et non de la bouche. Transportés d'Afrique dans le monde entier, avec le bois d'ébène, compagne de galères, des esclaves africains, par nos criailleries, on répondait à leur rythme, chant et danse sacrée pour rappeler les dieux. La parole doit sortir du cœur et non de la bouche.
Oh, Mais ce jour-là vous fit une rencontre capitale. En proue, la grâce d'une femme incluse au beau pré. En poupe, un dragon impénétrable et craint de tous. Au gréement de la toile et encore de la toile cernée de hauts bandes d'azur et d'or. Dans ses flancs, la terreur. C'est ainsi que vous apparut le dernier bateau pirate, Madre de Dios.
Quitter la vie en trottinant d'un paravis, cœur léger et sans un radis, sur les chemins du paradis. N'imaginez pas qu'on se réjouisse à l'idée de ces vers qui glissent et se nourrissent de nos histoires dans les replis de nos mémoires. Ces hordes d'asticots qui grouillent, nous aussi ça nous fout la trouille. Priez pour nous pauvres athées, priez pour nous les pas gâtés. On a les foi, mais pas la foi. Pareil qu'on a pas d'âme. sans autre forme de procès. Dieu nous interdit l'accès aux voluptés de l'espérance en d'éternelles vacances. Il a réservé ses dimanches à ceux qui montrent patte blanche. Se foutant du quart comme du tiers, il a dessiné la frontière. D'un côté, tous les bienheureux, promis au royaume des cieux. De l'autre, allez savoir pourquoi, toute une armée de types comme moi. Priez pour nous pauvres athées, priez pour nous les pas gâtés. C'est Dieu qui nous tourne le dos, qui nous fait pas de cadeaux, qui dit qu'on a pas d'âme. Si c'est ainsi qu'est vraiment Dieu, un petit fonctionnaire besogneux, un boutiquier fade et mesquin, qui dit que pour garder son pain, il faut savoir donner les miettes, tomber à côté de l'assiette. Si l'Éternel est à ce point, si misérablement humain, s'il est à notre piètre image, jusque dans l'idée du partage, y a vraiment rien à en tirer. Je suis athée, je suis atterré. Eh ben si Dieu croit pas en nous, on s'en fout pas mal, mon amour. Je brûle des cierges à tout essaim, bras en croix dans un lit moelleux. Nous deux, on est très pieux. Je ne me fie qu'à tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi, c'est le désir qui croit en moi. Je suis à tes pieds, et je n'ai Dieu que pour tes yeux. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et notre avenir ne peut attendre. Nous les athées, nous les sans ciel, on n'espère plus le bonheur factice de leurs cieux d'artifice. Nous, on ne croit qu'à l'essentiel, et pour honorer notre foi, on étanche notre soif. On s'abreuve du vin d'ici plutôt que de l'eau de là.
Bah, au 01 43 71 89 40, et ben avec bien sûr Monique à la technique, qui sera là le lundi 4, parce qu'on va recevoir Mayan Majidi pour son livre « Pour que je m'aime encore » publié au Nouvel Attila. C'est une dame qu'on a déjà reçue il y a quelques années pour Marx et la poupée. Ben aujourd'hui, on va voyager. Ah oui, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais faire un peu de publicité pour Trou Noir, l'émission qui va arriver là. À 16h, c'est ça? Tu seras là, Serge? Ça sera là? Car le sujet est quand même quelque chose, de, j'ai envie de dire, de solide et costaud. Ben, c'est ce qui s'est passé. En 61, le fameux massacre du 17 octobre, hein, les Algériens, je ne sais pas combien il y en a eu exactement, plus de 2000, on ne sait pas exactement. Et comme c'était une histoire qui, a été, qui est restée très très longtemps tue, bah, je crois que ce n'est pas inutile de revenir, surtout avec tous les oublis qu'il y a, avec l'histoire actuellement. En parlant des oublis de l'histoire, bah, c'est un peu pour ça que je suis rentré en contact avec toi. Tout simplement parce que j'étais à Publico, j'ai eu une discussion avec... avec Laurent, et qui avait été offusqué de voir des gens défiler avec l'étoile jaune dans les rues pour une question de passe, comme ça. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, j'avais été... À Nuit Debout, il y a quelques temps, je suis tombé sur un jeune homme qui se réclamait de l'anarchie, qui m'a remis un tract pro-palestinien. Ce tract partait très bien. Les 10 premières lignes étaient très bien. Ça tournait très rapidement en antisionisme. Ça arrivait en antisémitisme. Et c'était du Alain Soral à la fin. Donc une énorme confusion. D'autant plus que entre temps, il y a quelques années, moi, j'ai préfacé un livre qui s'appelle « Voyage au bout de l'abject » sur Louis-Ferdinand Céline. Je croyais que quand même dans nos milieux, c'était quand même difficile de défendre Céline, et je me suis retrouvé sur la toile avec des mots d'oiseaux, des insultes, et je suis tombé un peu, comme on dit, de l'escalier. Et puis là, juste avant de qu'on prenne contact, il y a eu un article qui m'a intéressé dans l'Humanité d'ailleurs, et qui dit ceci. Le mythe du complot juif, notamment, revient régulièrement lors de pandémies, parce qu'il offre une explication rationnelle à l'angoisse, observe l'historienne Nona Meyer. Dans les périodes de crise, on cherche un bouc émissaire. Dans l'histoire, on constate qu'il s'incarne régulièrement à travers la figure du juif. Voilà, c'est toute cette confusion qui fait que je t'ai téléphoné. J'ai lu ton livre et j'ai dit on va prendre rendez-vous pour parler de tout ça. Alors, c'est publié Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste antisémite et antisionisme aux éditions libertaires. Hein ? Ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est tellement vaste comme sujet, ça recouvre le politique, ça recouvre l'historique, le philosophique, le religieux aussi, il faut bien le dire, même si on est sur Radio Libertaire, il aurait fallu au moins 300 pages pour traiter de tout ça. La couverture est très explicative, entre guillemets, il y a un point d'interrogation, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cube, une étoile juive, le A de l'anarchie et un point d'interrogation. Alors moi, je me suis demandé si ce point de l'interrogation... Je trouvais que c'était très clair comme façon de conceptualiser ce que tu as voulu dire. Ça veut dire quoi, ce point d'interrogation ? C'est on s'interroge sur les passerelles qui existent entre la culture juive et la culture anarchiste, ou ce point d'interrogation concerne tous les hiatus, tous les malentendus et toutes les choses innommables qu'il y a eu de la part de certains organismes et certaines plumes juives, anarchistes par rapport à la culture juive. Alors, c'est quoi ce point d'interrogation, selon toi ?
Mais je crois que c'est tout cela en même temps, et en même temps, c'est que la question reste ouverte. Au fond, tous les gens qui se sont penchés, qui ont écrit sur la question juive, entre guillemets, ont élaboré des idées, des théories, mais sans résoudre cette question. Et les anarchistes, quand ils se sont confrontés à la question juive, ont biaisé sans arrêt, parce que c'est à la fois une religion, il n'y a pas de problème, c'est à la fois une ethnie, et ça c'est très discutable, et c'est beaucoup été discuté, c'est un mélange, c'est une culture, c'est un héritage, c'est quelque chose qui est honni par tout le monde, au fond. Et quand j'ai fait ce travail... Je suis parti quasiment de la fin. Je me suis posé la question de savoir pourquoi la question de la Shoah n'était pas traitée par les anarchistes.
Petite parenthèse, tu dis un mot terrible dans ton livre en bas de page. On est en 2017, tu me corriges si je me trompe. Tu es dans une réunion avec des camarades anarchistes et quelqu'un te dit « Le mot Shoah ne m'intéresse pas parce que c'est un terme religieux. » Ce qui est une confusion totale.
Mais... Absolument, c'est exactement ça. J'avoue avoir été assez choqué et interloqué, ne pas avoir su quoi répondre à cette question. Donc j'ai commencé ce travail en me disant, bon, on va aller aux sources, au départ des anarchistes. Et j'ai commencé à feuilleter la presse anarchiste en me servant effectivement de tous les originaux qui sont présents sur le site anarchisme, pas anarchisme, Archive Autonomie, où les textes fondateurs de l'anarchisme existent et sont publiés.
Parce que le problème n'est pas nouveau, parce que en préparant cette émission et en te programmant, j'ai reçu du Québec quelqu'un qui me dit le sujet est très intéressant vu que le problème s'est posé au Canada au début du siècle. Plus, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit je travaille en yiddish sur une traduction de texte fin 19e concernant ce problème.
Mais oui, c'est la première rencontre entre les anarchistes et les juifs, c'est l'affaire Dreyfus.
Voilà.
Et là se pose la question de savoir, est-ce qu'on défend un militaire? Est-ce qu'on défend un juif? Est-ce qu'on défend un juif accusé par des militaires parce